Le récit.
Le beau Serge, les bonnes femmes, la femme infidèle, docteur Popol, Violette Nozière, Madame Bovary, l'inspecteur Lavardin, la fille coupée en deux. Une galerie de personnages qui ont fait leur cinéma et surtout le sien. Stéphane Bern nous raconte le cinéaste qui a imaginé sa propre comédie humaine, Claude Chabrol.
Lorsqu'on pense à Claude Chabrol, on revoit d'abord cette mine réjouie et malicieuse qui faisait sa marque, celle d'un homme qui n'était jamais le dernier à se mettre à table pour avaler de bons petits plats et siffler quelques belles bouteilles de vin avant d'allumer sa pipe après le café. Il n'y a rien de faux là-dedans. Chabrol était à juste titre réputé pour être un bon vivant. Mais ce n'était qu'une des facettes du personnage. Derrière, il y a une œuvre complexe et dense. Chabrol, c'est 57 films de cinéma et 25 de télévision en 50 ans de carrière. Une vaste fresque qui lorgne, sans s'en cacher, du côté de Balzac dont nous parlions tout à l'heure. Chabrol partage bien des choses avec l'auteur de la comédie humaine, et une surtout. L'envie de soulever le couvercle de la société de son temps pour regarder ce qui mijote dans la marmite et qui ne sent pas toujours très bon. Balzac, c'était la Restauration et la Monarchie de Juillet. Chabrol, c'est la France de l'après-45, de Pompidou, de Giscard et de Mitterrand. C'est 50 ans d'un pays dont il s'est amusé à démonter les apparences avec une précision d'entomologiste. Quelque chose qui relève de la dissection, mieux encore, de la vivisection. Chabrol s'acharne à traquer ce que les autres veulent dissimuler, quitte à les pourchasser dans les recoins les plus sombres. Mais lorsqu'on cherche à s'intéresser à ce que son prochain peut avoir à cacher, encore faut-il trouver son terrain de jeu, son univers de prédilection. Pour Chabrol, c'était presque tout trouvé, ce sera la bourgeoisie. Cette bourgeoisie dont il était lui-même issu. Lui, le fils de pharmacien, né à Paris en 1930. Pourquoi la bourgeoisie ? D'abord donc parce que c'est un monde qui lui est familier. Ensuite, parce que Chabrol juge que c'est dans cette classe sociale qu'il peut trouver le paroxysme de ce théâtre d'ombre, de faux-semblants et de conventions étriquées. Il n'est pas le premier. Balzac donc, mais aussi Flaubert ou Agatha Christie avaient déjà flairé le parfum du scandale et du crime derrière les bonnes manières. Mais c'était sur le papier. Là, Chabrol va passer sa vie à creuser ce sillon à l'écran, porté par une érudition impressionnante et un amour profond d'un art qu'il connaît par cœur. Très jeune, Claude Chabrol choisit ses modèles. Fritz Lang, pour sa manière de décrire les engrenages qui broient l'existence de ses personnages. Howard Hawks, pour le sens du rythme et la simplicité de ses plans. Jean Renoir, pour la sensualité qui ressort de l'image et pour la place qu'il accorde aux acteurs. Et puis Hitchcock, évidemment. Ce n'est pas un hasard si Chabrol a été son premier biographe en 1957, à une époque où le maître du suspense est loin de faire l'unanimité chez les critiques. Chabrol partage bien des choses avec Hitchcock, l'humour noir, le goût pour l'intrigue policière et la même analyse un rien amer de la nature humaine. Chabrol est fasciné par le mensonge et l'hypocrisie. Lui qui n'a jamais caché ses convictions d'homme de gauche se retrouve sans doute dans une phrase célèbre de Balzac. Derrière chaque grande fortune se cache un crime. Même si Claude Chabrol s'est toujours défendu de faire des films politiques, le portrait qu'il trace de la bourgeoisie est d'une cruauté sans pareille. Et le message est parfois plus affirmé, comme dans La Cérémonie, un film inspiré de l'histoire des sœurs Papin, ces deux bonnes qui avaient assassiné leur maîtresse en 1933. Chez Chabrol, c'est toute une famille de grands bourgeois qui trépassent en Bretagne, massacrés sur fond d'opéra par leurs domestiques et la postière, interprétée par Sandrine Bonnaire et Isabelle Huppert. Huppert, justement, est l'une de ses actrices fétiches. Il en fera Violette Nozière, l'empoisonneuse parricide, puis une avorteuse collabo dans une affaire de femmes, et bien sûr, Emma Bovary en 1991, dans un film qui sonne comme une évidence, tant il y a de points communs entre l'univers de Flaubert et celui de Chabrol. Mais il y en a bien d'autres, toute une tribu de fidèles qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Stéphane Audran, sa compagne pendant 20 ans, Michel Bouquet, Benoît Magimel ou Jean-Yann à qui Chabrol a offert deux de ses plus beaux rôles dans Que la bête meure ou encore Le boucher, sorti en 1969, dans lequel il est Popol, le boucher du village et un assassin sadique.
Est-ce que vous aimez la viande ?
Oui.
Alors, je dis ça parce que des fois, si je tombe sur une belle bête, je pourrais vous amener des bons morceaux. Des escalopes ou des rôtis, des morceaux du boucher.
Alors,
vous savez, Il y a des bêtes qui sont meilleures que d'autres, nous. On le sait.
Oh là là. Et vous pensez que c'est un rêve? C'est un rêve d'avoir un boucher qui vous choisisse la viande.
Si bien des films de Chabrol tournent autour d'un crime, les cadavres qu'il sème à longueur de plan ne sont que le prétexte de quelque chose de plus subtil et de plus vénéneux. La bourgeoisie parisienne lui sert parfois de cadre, mais c'est aussi pour ça qu'il privilégie la bourgeoisie de province qui le fascine, avec ses secrets de famille, ses dynasties de notables plus ou moins incestueuses, ses jeux de théâtre et ses conventions qui cachent des haines et des rancunes, des gouffres de duplicité derrière le vernis des apparences qu'on sauvegarde à tout prix. Pour Chabrol, en province, tout le monde sait tout sur tout le monde, mais chacun regarde ailleurs jusqu'à l'explosion. Le meurtre qui remet enfin de la réalité au milieu des ombres et des mensonges. C'est le cas dans Le Boucher que l'on vient d'entendre où la petite vie tranquille d'un village du Périgord éclate en morceaux lorsqu'on commence à retrouver des femmes égorgées. C'est aussi le cas dans La Fleur du Mal avec Nathalie Baye, Benoît Magimel et la merveilleuse Suzanne Flon dans un sommet d'hypocrisie sociale sur fond de crimes oubliés. Film après film, Chabrol s'attache à tracer le portrait d'une classe sociale, mais pas seulement. Lui qui a lancé la nouvelle vague avec son premier film en 1957, Le Beau Serge, ne veut pas révolutionner le langage du cinéma comme un François Truffaut. Derrière un classicisme formel, du moins en apparence, il y a une volonté de peindre toute une nation pendant des décennies. Et au-delà de la satire, le message de Chabrol cache une couche de plus, plus ambiguë encore. En filmant cet univers feutré où l'on prend le thé dans le salon pendant qu'on se trucide à la cuisine, Chabrol provoque aussi le spectateur en lui montrant que le meurtrier peut être n'importe qui, lui compris. Du patriarche respectable en passant par la bonne ou le gendre idéal, le cinéaste semble dire que tout le monde peut tuer par vengeance, pour l'argent ou pour échapper à l'ennui et aux mensonges impunis. Et ce qui est si dérangeant, c'est que Chabrol s'acharne à montrer qu'il serait trop simple de croire que les meurtriers sont des monstres. Il y a bien une notion de bien et de mal, oui, mais le bien n'est jamais vraiment solide et le mal n'est pas toujours là où on le pense. Et dans les contes noirs de Claude Chabrol, il y a une question plus grave. Le portrait qu'il a patiemment tracé jusqu'à sa mort en 2010, c'est aussi le nôtre, en tout cas celui de notre société et de ses propres ambiguïtés.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Claude Chabrol, nous sommes avec celui qui lui consacre une très riche biographie. Bonjour Antoine Debac.
Bonjour.
Bonjour Antoine Debac, vous avez décidé d'écrire sur tous les pionniers de la nouvelle vague. Après Truffaut, Godard et Romère, vous signez là une biographie sur Chabrol qui vient tout juste de paraître aux éditions Stock. Je le disais dans mon récit, Chabrol est considéré comme celui qui a lancé la nouvelle vague avec Le Beau Serge, son premier film réalisé en 1957. Est-ce qu'il avait conscience d'instaurer un nouveau genre? Une nouvelle manière de faire du cinéma?
Peut-être pas une nouvelle manière de faire du cinéma, mais il avait conscience de faire du cinéma différemment. On est dans une époque où le cinéma se fait en studio, avec souvent des grandes vedettes comme Gabin, comme d'autres de ce genre-là. Et Chabrol va décider de sortir du studio, va décider de tourner avec des jeunes gens qui sont ses amis, comme Jean-Claude Brialy, Gérard Blin, Bernadette Lafont. Et il décide de tourner des histoires qui le concernent très directement. En tout cas, qu'il ne manque pas d'écrire lui-même. Voilà, ces trois choses-là font que Chabrol va contribuer à changer le cinéma avec toute la bande qui l'entoure. Hein. Ces jeunes gens des Cahiers du cinéma qui sont tous en train de passer au cinéma. Et il sait qu'il est suivi, qu'il est accompagné, qu'il y a une force, je dirais, un peu collective qui l'entoure.
Quand on parle de nouvelle vague, si je ne m'abuse, on ne pense pas à Chabrol. Ce n'est pas le premier nom qui vient. Comment vous l'expliquez ça, alors que c'est le premier film qui appartient à ce courant, en tout cas, historiquement?
Absolument, je pense que c'est quelque chose qui... Les films de Chabrol, les deux premiers films de Chabrol, donc qui sont les deux premiers qui sortent effectivement de ce courant, Le Beau Serge et Les Cousins, vont être un peu recouverts par Les 400 coups de Truffaut, et puis beaucoup par À bout de souffle de Godard, qui va être un peu le manifeste, un an après, le manifeste de la nouvelle vague. Chabrol a été vraiment la première petite, je dirais presque vedette de la nouvelle vague. Hein. Il est célèbre dans tout Paris, tout d'un coup, de façon très très... Il faut dire que ses deux premiers films, Le Beau Serge et Les Cousins, vont sortir à 3 mois d'écart, vraiment quasiment coup sur coup. Et c'est un véritable choc quand sortent ces deux films. La critique prend plutôt bien ces films, ce qui est évidemment important pour Chabrol et pour lancer sa carrière.
Dans votre biographie, vous écrivez que Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et méconnu. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus méconnu sur lui ? Vous le racontez qu'il se cachait derrière trois masques.
Oui, Chabrol était quelqu'un qui a inventé, je dirais, qui a mis en avant un personnage, celui que vous avez très bien décrit, un personnage qui est le bon vivant, joyeux de rire, qui s'est réparti à la fois drôle et sarcastique. Après, je pense que un autre Chabrol peut être mis en avant, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est le Chabrol qui est à la fois plus secret, et puis traque tout ce qui pourrait être enfoui ou tout ce qui pourrait être masqué dans la société française de son temps. Et donc là, Chabrol fait preuve parfois d'une très grande violence. Hein, ses films, on l'oublie, hein, sont souvent occupés par des meurtriers et peut-être plus encore par des meurtrières, des femmes meurtrières, hein, qui ouvrent comme ça le couvercle, et ce qui sort de la société, c'est quand même quelque chose de très violent. À la fois, cela est compris et reconnu. Chabrol n'est pas du tout un inconnu, mais il n'a jamais été, jamais entré au Panthéon, par exemple, du cinéma français. Il n'a jamais eu un seul César. Il n'a jamais eu, par exemple, non plus un prix de Palme d'Or ou de mise en scène ou un prix personnel au Festival de Cannes.
Est-ce qu'il en souffrait de ça ?
Alors, il en souffrait sans doute, mais il y avait aussi ce personnage qui s'en sortait par des pirouettes,
oui,
par des rires, il en rigolait, oui, il en rigolait. Et puis, je pense que Chabrol était absolument intimement convaincu de son propre génie. C'est c'est quelqu'un qui était extrêmement sûr de son art, notamment d'être un grand metteur en scène. Il a toujours été extrêmement caustique, voire sarcastique avec les honneurs. Hein. Il a toujours refusé les honneurs qu'on pouvait lui proposer de la Légion d'honneur à ce genre de médaille. Et c'était quelque chose qu'il en riait beaucoup.
Avec Stéphane, on a fait un parallèle pour cette émission entre Balzac et Chabrol. Est-ce que lui-même, il aurait pu faire ce parallèle ? C'est-à-dire que lui-même, il avait cette vocation à faire sa comédie humaine et il construisait son œuvre comme ça ? Ou c'est a posteriori qu'on voit ça comme ça ?
Non, je pense que chez Chabrol, il y a quelque chose de très conscient de réaliser film après film une sorte de comédie humaine. C'est quelque chose qui apparaît, je dirais, de façon publique. Et il le dit dans les entretiens au moment où, au début des années 70, il enchaîne ses chefs-d'œuvre autour de Que la bête meurt, Le boucher, La femme infidèle, où là, il est vraiment dans cette sorte de chronique extrêmement à la fois cruelle et caustique des habitudes bourgeoises autour de Stéphane Audran et de Michel Bouquet. Voilà. Mais je pense que le grand amour de Chabrol, c'est Flaubert, sans doute, mais son ambition, elle est véritablement balzacienne.
Oui. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la place des femmes et de leurs conditions sous la monarchie de Juillet dans l'œuvre de Balzac. Chez Chabrol aussi, la femme occupe un très grand rôle. Vous écrivez qu'il jauge et rehausse la place des femmes au fur et à mesure qu'il construit ce qui est peut-être le principal fil rouge de son cinéma, cette figure féminine qui échappe, révèle, se retranche de ces Hélènes incarnées par Stéphane Audran au criminel joué par Isabelle Huppert, entrant de plus en plus ouvertement en guerre contre la société des hommes, plus puissant mais plus faible qu'elle. Les femmes ont mis du temps donc à s'imposer dans ces films, mais à partir de ce moment-là, elles étaient omniprésentes et elles sont emblématiques. D'ailleurs, sont les femmes de sa vie, si je puis dire.
Oui, c'est vrai que la rencontre avec Stéphane Audran a été essentielle, puis la rencontre, qui n'est pas une rencontre amoureuse, mais professionnelle avec Isabelle Huppert, est décisive pour Chabrol. Ils ont des films comme Les Cousins ou comme Les Bonnes Femmes, qui portent à la fois bien et mal son nom, ont été reçus de façon comme des sortes de pamphlets misogynes. Et Chabrol a été, alors là, il a été assez blessé par ça. Et je pense que ça a joué dans son désir de placer la femme au centre du film. Alors, c'est ce qu'il peut faire peu à peu grâce à Stéphane Audran, hein, qui va à la fois matériellement installé comme vedette du cinéma français. Tout d'un coup, ses films peuvent se faire autour de ce personnage, surtout quand il est en dialogue avec un homme comme Michel Bouquet. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est une forme de féminisation du cinéma de Chabrol.
Merci beaucoup Antoine Debac d'avoir démasqué Chabrol. Je rappelle votre livre Chabrol qui vient de paraître dans la collection Biographie chez Stock.
Merci beaucoup.
Merci.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages